Et il en sera de même maintenant pour le collectif de chercheurs que nous accueillons. Alors, une petite explication pendant qu'il s'installe. Nous allons maintenant entendre la voix ou les voix d'un atelier des chercheurs, un collectif qui s'est constitué en 2011 pour réfléchir aux évolutions des pratiques universitaires et qui vont donc s'exprimer sur l'évaluation à partir de la pluralité de leurs points de vue. Je leur laisse donc la parole. Et puis, en les remerciant d'avance quand même pour veiller au temps, au respect du temps.
Ok, je pense qu'on va, poursuivre en tout cas sur la lancée de l'exposé précédent, puisqu'on va assez fort être dans la continuité. Je dirais qu'on va aller un cran plus loin. Et puis surtout qu'on va partir d'expériences vécues et d'expériences de terrain et donc pas d'une analyse ou d'une étude qui aurait été faite à ce sujet. Donc comme il vient d'être dit, on s'exprime au nom d'un collectif de chercheurs des excellents qui sont réunis dans l'atelier des chercheurs. Et effectivement, nous essayons de réfléchir et d'agir ensemble et aussi de comprendre et de nous opposer à ce qui nous apparaît comme des dérives de la recherche et de l'enseignement universitaire aujourd'hui. Et donc dans ce contexte, on a travaillé, on a rédigé, on a diffusé une charte de la désexcellence qui est facilement trouvable sur le site de notre atelier. Alors pourquoi prenons-nous la désexcellence ? Car au travers de l'appel obsessionnel à l'excellence auquel il vient d'être fait allusion, l'excellence de la recherche, nous voyons dans le même temps s'imposer une nouvelle raison évaluatrice qui à nos yeux a des traits assez inquiétants puisqu'elle mine les fondements même de la recherche telle que nous l'envisageons, c'est-à-dire une recherche libre, plurielle et engagée. En effet, la fonction cardinale de cette nouvelle raison évaluatrice est d'assurer la mise en concurrence et la compétition généralisée des chercheurs et de leur production sur le marché de la connaissance, et ça a été dit de manière édulcorée il y a quelques minutes. La sélection qui s'opère sur ce marché compétitif repose sur des critères rarement explicites, mais qui relève essentiellement de la performance et de la productivité des chercheurs, des centres, des universités. La mise en œuvre de ces critères peu explicites, peu discutés, se réalise à travers une forme de quadrillage de nos pratiques par des dispositifs de marketing, d'évaluation permanente et de classement. Puisqu'il s'agit d'établir la productivité des chercheurs, des centres, des universités, qui sont désormais conçus comme assez indifférenciés, la nouvelle raison évaluatrice conduit à réduire l'activité scientifique à ce qui peut être mesuré et disqualifie de fait le recours à d'autres critères de jugement. Les grilles d'évaluation standardisées, qui sont de plus en plus récurrentes et dont les items sont eux aussi rarement explicités, jamais discutés, en sont le marqueur le plus frappant. Alors, chacun sait que des pratiques, quelles qu'elles soient, sont toujours transformées par les instruments qui ambitionnent de les mesurer. Notre intervention se propose donc de rendre compte des transformations des pratiques d'évaluation et de ses effets sur la recherche au cours des 10-20 dernières années, au travers du prisme des situations, comme je l'ai dit, réellement vécues par nous et qui nous ont souvent laissés, si pas, pour ne pas dire toujours, sans voix. Elle a pour ambition de proposer des clés de lecture de cette nouvelle raison évaluatrice, de ce qui la fonde, de ce qu'elle façonne comme milieu professionnel. Alors l'instrument que nous avons choisi pour décrire et comprendre cette raison évaluatrice, vous allez le voir, c'est celui de la polémique et du décalage. Notre grille de lecture, en effet, sera, au point de départ, un slogan repéré sous un pont d'autoroute à Drogenbos. Beaucoup, vite, loin, mal, ou pour faire vite, la méthode BVLM.
Alors, je vais commencer par le beaucoup. Il n'y a aucun doute, toutes les grilles d'évaluation auxquelles nous sommes soumises nous invitent à produire beaucoup. La productivité du chercheur est au centre de ces dispositifs d'évaluation, si bien que certaines pratiques qui permettent de se conformer au mieux à ce modèle productiviste ont fait leur apparition. Donnez un marteau à un enfant et il en frappera tout ce qu'il encontre. Mettez l'outil bibliométrique au service du nouveau management universitaire et il sera appliqué uniformément à tout ce qu'il touche. Le désormais ancien publish or perish s'est mué en frénésie publicationnelle. Comme les chaînes d'information continue, les chercheurs sont invités à publier en continu. L'idée du « one idea, one paper » qui consiste à saucissonner les résultats d'une recherche en plusieurs publications en lieu et place d'articles de synthèse, comme on en a parlé ce matin, reposant sur des recherches à plus longue échéance, était déjà connu et pratiqué. Pourquoi, en effet, n'écrire qu'un seul article alors qu'on peut en comptabiliser deux ou trois ? Et voilà qui connaît un emballement. On parle désormais de « one idea, ten papers ». Il ne s'agit pas cette fois de saucissonner, mais de répéter. Écrire plusieurs fois la même chose pour des publics légèrement différents, en variant l'habillage, le titre, l'introduction, éventuellement dans différentes langues. Un phénomène qui est à la fois exploité et renforcé par des éditeurs scientifiques privés engagés dans une multiplication des titres de revues et des champs de recherche. On voit aussi apparaître des articles qu'on pourrait qualifier de programmatiques, ceux qui annoncent une recherche, une méthode, sans aucun résultat. No idea yet, a paper already. Ou encore des articles dont certains auteurs n'ont même pas participé à la recherche, mais ont monnayé leur signature sous la forme d'un billet d'avion, par exemple. No idea yet, no idea, cached paper. Des sociétés se sont même spécialisées dans le soutien à la rédaction de papiers scientifiques garantis sans plagiat. Autre pratique observée, le zombie. Vous prenez un débat clôturé et vous en relancez les arguments les plus contestables dans une publication que l'on justifiera éventuellement comme thought-provoking. Dans les mois qui suivent, les réactions de vos pairs contribueront immanquablement à faire grimper votre indice de citation. Beaucoup cité, et peu importe pourquoi, puisque seuls comptent les chiffres. Nous sommes tous désormais évalués au poids. Beaucoup de publications, beaucoup de congrès, beaucoup de promotions de thèses à son actif, beaucoup de membres dans son centre, beaucoup de chercheurs intérimaires, beaucoup de projets, beaucoup d'argent extérieur, un usage qui révèle d'étranges pratiques cannibales.
Au fait, Jean-Michel, j'ai appris qu'Émile était le copromoteur de votre gros projet lié à la création de la nouvelle maison de l'excellence.
C'est exact, Pierre. Il est d'ailleurs très enthousiaste pour ce projet. Je pense qu'on va faire du bon boulot ensemble.
Justement, à ce propos, Jean-Michel, il faudra qu'on s'arrange pour se partager ces publications. Parce que s'il travaille sur ce projet-là, ces publications n'apparaîtront plus dans les statistiques de mon centre. Donc tu imagines un peu pour les prochaines évaluations le manque à gagner de mon centre.
Pierre, je t'avoue que je n'avais pas pensé à cela. Tu avances un argument qu'on pourrait qualifier de poids.
Alors après le beaucoup, eh bien, il y a le vite, et vite et beaucoup sont bien évidemment deux facteurs tout à fait liés. Pour faire beaucoup, il faut faire très vite. Il faut faire très vite et mettre à profit toutes les temporalités. La carrière, les mandats, la vie privée, les jours, les nuits, les week-ends de plus en plus. Produire vite, ça veut dire aussi produire jeune. De plus en plus jeune, si possible avant la thèse. On trouve normal maintenant que dans un dossier d'aspirant, on puisse déjà faire état de certaines publications. Quant à la thèse, il est préférable de la faire en 3 ans plutôt qu'en 4 ans. Et comme ça, on se réserve une année pour publier frénétiquement. De ce fait-là, la thèse excellente, ce n'est plus une lente maturation de la recherche ou une maturation tout court, mais c'est une suite de publications. Alors, dans ce domaine-là, on a littéralement tutoyé les cimes ces derniers temps. Quand on a vu arriver cette idée de canard sauvage de la thèse en 180 minutes, je dois vous avouer... 180 secondes, excusez-moi. Ma première réaction, c'était, c'est un canular qui est fait par des gens qui dénoncent cette frénésie et cette imbécilité. Ben, pas du tout, c'est pas un canular. Et c'est en plus quelque chose qui est adopté de plus en plus, y compris ici, ne nous en cachons pas. Alors ça consiste finalement à fourrer dans le même format tout et n'importe quoi, et à fourrer la recherche, à la vendre très rapidement, comme un spot publicitaire. Finalement, les capacités de communicant des chercheurs sont beaucoup plus importantes que leurs capacités de réflexion. Alors, pour nos journées, on pourrait probablement encore en rajouter, mais à quoi on passe son temps ? Publier, communiquer, réseauter, projeter, évaluer, réunionner, administrer, réformer, encadrer et parfois enseigner.
Notre papier commun. Tu n'aurais pas 5 minutes d'ici la fin de la semaine ?
Pour tout te dire, Éléonore, ça ne va pas être facile. Hein. Pour ce soir, je pense devoir envoyer à la faculté le projet de réforme de notre master. Demain, pas de chance, je suis à Paris pour une soutenance de thèse. Oui, la thèse, d'ailleurs, je ne l'ai pas fini de la lire. Jeudi, je donne cours toute la journée. Sur l'heure du midi, j'ai un conseil de département. Et puis vendredi, le matin, j'ai un comité d'accompagnement, tu vois, pour le projet européen dont je t'ai parlé. J'enchaîne ensuite, coup sur coup, trois réunions avec des doctorants. Et puis, il y a ce foutu règlement d'ordre intérieur que je dois encore rédiger. Tu comprendras fort bien que pour notre article, ce n'est pas facile. Je te propose donc de nous retrouver vendredi soir, fin de journée, vers 19h dans mon bureau. Ça te va ?
Alors, les conséquences du beaucoup et du vite, en tout cas, parmi d'autres, et pour faire très rapidement, ici aussi, impossibilité évidente de développer l'interdisciplinarité, puisque l'interdisciplinarité impose que l'on soit capable de domestiquer des cultures scientifiques différentes. Et ça, ça prend du temps. Tentation de reproduction du familier plutôt que prise de risque et production d'indicateurs idiots qui n'ont plus aucun lien avec le contenu.
Alors après les temporalités, un autre axe sur lequel la raison évaluatrice aujourd'hui dominante a de lourds impacts, ce sont les spatialités de nos recherches. En un mot, commençant, vous le savez tous, il faut être international. Toujours, partout et surtout le faire savoir. International d'abord dans notre trajectoire personnelle de chercheur. Un CV qui montre qu'on a obtenu son BA, son MA, voire son doctorat dans la même université devient suspect. Sans postdoc à l'étranger, même pas la peine d'essayer de postuler à certains postes. La pression s'intensifie même déjà sur les étudiants, au travers de la surpromotion des échanges Erasmus en particulier. International aussi dans un mode de collaboration, de partage et de diffusion de nos recherches. Présenter un papier à un colloque à Los Angeles ou à Tokyo par an devient une norme, même si c'est pour s'y retrouver entre compatriotes poussés pour les mêmes raisons à faire le même déplacement. Les collègues, les étudiants, les organisateurs de séminaires locaux, eux, devront attendre que nous soyons rentrés. International encore dans nos pratiques de publication. Il vaut toujours mieux publier loin, c'est-à-dire en anglais, dans une revue contrôlée par une multinationale de l'édition scientifique, même si celle-ci, de cette manière, toute contente d'avoir une rente de monopole, ne se privera pas en retour de faire payer le prix fort aux lecteurs et au budget des universités. Les revues plus locales, indépendantes, dédaignées par la raison évaluatrice, permettent pourtant souvent d'atteindre un lectorat réel, important, intéressé et bien plus large, comme il a été question déjà ce matin. International également dans nos choix d'objets. Envisager de postuler à une ERC, par exemple, demande de bien choisir son objet. Sans dimension transnationale, aucune chance. International toujours dans nos recrutements, comme nous le savons tous, un candidat qui vient de loin est forcément plus excellent qu'un candidat d'ici. International enfin dans nos engagements sociaux, là aussi tout le prestige va aux grandes causes mondiales, les luttes ancrées dans des territoires locaux où la réflexion s'enrichit de l'action concrète ici et maintenant, elles pourront attendre. Alors bien sûr, nous ne sommes pas contre et bêtement contre toute dimension internationale. Nous n'avons en fait que faire des frontières dès lors qu'il s'agit de dialoguer, d'échanger avec des collègues, de confronter nos idées, nos hypothèses à d'autres contextes, avec d'autres cadres intellectuels et de partager nos questionnements et nos résultats. Mais justement, la raison évaluatrice n'a que faire de ces échanges-là. Pour elle, l'international est un fétiche. Franchir des frontières devient un gage de qualité en soi. L'affichage international prime sur tout le reste.
Alors après le B, après le V, après le L, reste le M, c'est-à-dire le mal. L'objectif annoncé par la nouvelle raison évaluatrice, elle promet, cet objectif promet des lendemains qui chantent. Il s'agit en effet d'améliorer sans cesse la qualité de la production scientifique. À bien y regarder pourtant, par sa fonction première, mettre en concurrence les chercheurs par ces outils aussi, mesure de la productivité. Cette nouvelle forme de l'évaluation nous pousse, nous semble-t-il, au contraire, à mal faire notre travail. En ce sens, l'évaluation produit ce que le sociologue Christian Morel appelle une erreur radicale et persistante. Une suite de décisions collectives qui entraînent un résultat exactement inverse à celui qui est escompté. Au nom de l'excellence, c'est peut-être à une sorte de bouillie, peut-être de plus en plus insipide, parfois toxique, que nous sommes amenés à concevoir et diffuser. contraints de répondre à l'injection du beaucoup, nous sommes amenés, ça a été dit, à faire de plus en plus vite. C'est une manière d'augmenter notre productivité. Certes, dans cette course, nous pouvons nous appuyer sur des outils qui accélèrent notre travail. Des ordinateurs, des logiciels et des moyens de communication qui sont, il faut le souligner, de plus en plus puissants. Reste que l'élaboration de connaissances nouvelles va reposer aussi, et repose aussi, c'est quand même fondamental, sur l'imagination, sur la curiosité, sur l'échange des idées, sur la réflexion, peut-être aussi sur le rêve. Toutes des activités qui vont demander beaucoup de temps. Paradoxalement, en dépit des nouvelles technologies dont je viens de parler, ce temps créatif, nous en perdons. Nous en perdons car, comme l'a formé à montrer le philosophe Hartmut Rosa, la croissance du nombre de tâches que nous accomplissons dépasse l'accélération de la réalisation de ces mêmes tâches. Que là, on croit gagner du temps, en fait, nous en perdons. Par ailleurs, faire vite, ça ouvre aussi une voie royale à la malhonnêteté scientifique. À moins d'être aveugle ou sourd, on ne peut que constater l'augmentation des fraudes scientifiques, que ce soit par falsification des données ou par plagiat, surtout dans le chef des chercheurs masculins. Une étude qui a été publiée dans PNAS montre par exemple, sur base d'une analyse de la principale base de données bibliographique en sciences de la vie, PubMed, que la proportion, pas le nombre d'articles rétractés, a été multiplié par 10 au cours de la période 1975-2012, et que la très grande majorité de ces articles rétractés l'ont été pour des raisons de fraude scientifique. Une autre étude qui a été publiée aux États-Unis souligne pour sa part une nette surreprésentation des hommes parmi les fraudeurs. Une évaluation qui est fondée pour l'essentiel sur des indicateurs quantitatifs a aussi pour effet pervers de nous encourager à n'être attentif qu'aux performances obtenues à l'aune de ces indicateurs. Ça a été mentionné tout à l'heure. En ce sens, cette évaluation nous conduit à concevoir nos travaux uniquement en fonction des places qu'il y aurait à gagner. Comment faire croître mon H-index? Comment allonger facilement ma liste de publications? Comment améliorer nos positions dans les classements? Dans cette optique compétitive, finalement, peu importe ce que l'on produit, du moment que ce qui est produit permet de rester dans la course. Rester dans la course, si possible aussi, en faisant par la même occasion le buzz médiatique.
Cette logique quantitative encourage aussi l'homogénéisation et le rétrécissement des domaines de recherche, malgré l'explosion du nombre de chercheurs au cours des dernières décennies. Pour rester compétitif, il vaut mieux ne pas prendre de risques, ne pas s'écarter des chemins balisés, car le tâtonnement, la spéculation, les erreurs, ça fait perdre du temps, ça fait perdre du point dans le CV. Globalement, ça pourrait avoir des conséquences catastrophiques en matière de développement et d'innovation. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est le British Research Council. Compte tenu de la primauté de la performance sur le contenu, le montage des dossiers, eux aussi, repose dorénavant sur des principes stratégiques afin de les ajuster le plus possible aux attentes réelles ou fantasmées des commissions d'évaluation. À l'arrivée, nous engendrons une profusion de chercheurs indistincts, interchangeables, jetables.
Elle faisait un post-doc sur l'intimité nostalgique.
Non, tu te trompes. L'intimité nostalgique, c'était le sujet de la thèse de Gilles. Mais c'est pas loin, je crois. Lola, elle travaillait sur les intimités post-nostalgiques, en fait.
Ah oui, c'est possible. Mais dis, pourquoi tu me parles d'elle ?
Oh, non, je l'ai croisée l'autre jour. Elle vient d'ouvrir un magasin de vêtements de seconde main.
Faire de la mauvaise recherche, donc. Faire aussi des mauvaises évaluations. La transformation des formulaires d'évaluation est évidente. Dans les grilles, les formulaires New Look nous condamnent à produire un jugement terriblement réducteur sur les candidats et sur leurs projets. Ils nous forcent, ces dispositifs, à être triviaux, en répondant par oui ou par non, en utilisant des échelles ordinales de type A, B, C, D, en utilisant des poncifs de type SWOT, en limitant drastiquement la longueur autorisée pour les commentaires libres. Les grilles étouffent les différences qualitatives et ne prennent la mesure que de ce qui est déjà connu. Elles engendrent donc, de fait, la déresponsabilisation de ceux qui les remplissent. Par ailleurs, la séparation croissante entre les lieux de la recherche et ceux de l'expertise, avec pour seul lien ces grilles d'évaluation standardisées, favorise une certaine paranoïa et la désévaluation. En fait, au nom de la visibilité, au nom de l'équité, au nom de l'objectivité, on n'a jamais produit autant d'opacité.
Dis, Éléonore, tu sais comment remplir la nouvelle grille d'évaluation ?
Oh ben, ça dépend de ce que tu veux, hein, ça dépend de ce que tu espères. Que la personne passe ou bien non ?
Ben, j'espère qu'elle passe. Je trouve qu'elle a vraiment un bon dossier. C'est quelqu'un de chouette. On a envie de travailler avec elle.
Alors, c'est très facile. Tu mets des A partout.
Et comment je vais justifier de mettre des A partout ?
Oh, le blabla habituel, cohérence, haut niveau d'excellence, profil international. De toute façon, il n'y a presque pas de place dans les cases.
Mais tu crois pas que ça va faire un peu trop, tous ces A ?
T'as qu'à mettre un A moins quelque part, du genre pour responsabilité de gestion. De toute façon, tout le monde s'en fout.
Alors, la nouvelle raison évaluatrice contribue aussi à nous faire du mal. Hein, pour tenter de rester dans la course, ça a été mentionné là aussi par Bernard Fuselier, nous allongeons notre temps de travail, nous réduisons nos heures de sommeil, nous réduisons le temps consacré à nos proches, à nos amis, à nos loisirs. Parallèlement, le sens même de notre métier tend à s'éroder. Le plaisir, la créativité font place aujourd'hui à la détresse. Détresse d'autant plus forte que les logiques mêmes de l'évaluation supposent que nos performances s'améliorent en continu. Et donc que le bien-faire, simplement le bien-faire, il n'est jamais stabilisé. Inévitablement, à terme, le doute s'impose. Sommes-nous encore bons à quelque chose ? Ne sommes-nous pas devenus des bons à rien ? Pour les cohortes de jeunes collègues, cette détresse se double trop souvent de la plus rude des sanctions, là encore évoquée par Bernard Fuselier, celle de la précarisation, puis de l'éviction du monde académique, en dépit de l'enthousiasme initial, en dépit de l'importance du temps et de l'énergie qui a été consacrée à la recherche. Fatigue et perte de sens, ça produit de la souffrance au travail. Dans le monde universitaire, je pense que vous le savez bien, les symptômes les plus répandus de cette souffrance, c'est la dépression, c'est le burn-out. Bientôt, peut-être, ce sera le suicide. En la matière, les témoignages se multiplient. Les services médicaux en charge du personnel universitaire constatent d'ailleurs une croissance de la prise des antidépresseurs, des brusques variations de poids chez les chercheurs, des bouffées délirantes ou des addictions féroces. Au total, la méthode BVLM, telle qu'elle est appliquée, tout azimut, pèse fortement sur nos manières de faire et guette chacun de nos pas. Appliquée en continu, privilégiant le quantitatif, elle fait du mal à nos esprits, elle fait du mal à nos corps et peut-être fait émerger aussi, par la même occasion, un vrai problème de santé publique.
Donc, il ne s'agit pas seulement de recenser les transformations des modes d'évaluation et d'exprimer à notre manière l'intensité avec laquelle elles affectent nos pratiques. On a aussi essayé de chercher à comprendre ce qui les nourrit et plusieurs interventions participent aussi de cette réflexion. Mais voilà comment nous, on lit les choses. Il semble qu'il y a trois dimensions du système universitaire qui connaissent des transformations radicales et qui offrent l'environnement favorable à cette conversion collective, à la quête de l'excellence. La première est géodémographique. La population des étudiants et par conséquent des cadres universitaires a explosé depuis les années 80. Cela a engendré un phénomène de dévaluation progressive des diplômes universitaires sur le marché du travail, ceux-ci devenant de plus en plus nombreux et donc de plus en plus communs. Donc, pour les étudiants désireux de se distinguer de cette masse de diplômés, il devient alors logique de chercher à se donner un parcours universitaire original, ce qui signifie concrètement la multiplication des diplômes, si possible, à décrocher dans des institutions de pays différents. Pour les universités, alors, l'enjeu devient d'attirer ces étudiants de plus en plus mobiles. L'excellence et tous les packagings qui servent à la vendre est alors non pas la qualité dorénavant supérieure de la recherche, mais un signal prix censé attirer les clients du marché de l'enseignement supérieur. Et le phénomène est d'autant plus ample que le processus de Bologne a transformé les universités européennes en un grand marché à la monnaie équivalente, le CTS, sur laquelle des offreurs tentent d'attirer des demandeurs par l'excellence supposée et évidemment toujours standardisée de leurs produits.
Alors la deuxième transformation qui conduit à ce constat, c'est une transformation structurelle Celle-ci, elle est imputable aux modalités d'action des autorités publiques qui sont en charge de la retraite, de la recherche, bientôt de la retraite. Et nous sommes, comme vous le savez tous, dans un contexte d'autorité budgétaire, d'austérité, je n'y arriverai pas, prolongée, de surmédiatisation de l'action publique, d'hyperconcurrence électorale. Et il est évident que dans un contexte comme celui-là, ce que les décideurs politiques essayent de privilégier, c'est les retours sur investissement décisionnels rapides, au nom de l'accountability qu'on a évoqué tout à l'heure. Et on est là, évidemment, dans une logique tout à fait court-termiste qui privilégie tout ce qui est visible, tout ce qui peut être brandi, notamment par le politique. Alors on va miser, bien sûr, sur les champions, on va miser sur les stakhanovistes de la publication, les rafleurs de prix, on va se constituer des centres, des pôles, des laboratoires d'excellence qui, quand vous y réfléchissez bien, sont en fait l'équivalent académique des écuries de pur sang pour chèques saoudiens. Il faudra évidemment se passer désormais de toute recherche de longue haleine dans ce paysage-là. Et évidemment, de toute problématique qui concerne ou qui a trait à des populations qui sont médiatiquement marginales. En fait, ce qui est marginal dans la problématique ou dans la population que l'on peut étudier n'est pas rentable politiquement. Et du point de vue politique, c'est assez cocasse d'ailleurs de voir comment toute une série d'entre eux se sont bousculés pour poser sur la photo avec François Englert quand il est revenu avec son prix Nobel. Tout le monde voulait en être, mais il voulait être de quoi ? Du couronnement d'une recherche qui a été effectuée il y a 50 ans dans une université qui n'a absolument plus rien à voir avec ce qu'elle était à l'époque, et que ces mêmes personnes se bousculant sur la photo contribuent chaque jour un peu plus à détruire. Alors, ça ressemble à ça. La troisième transformation, elle est liée à ce qui précède, c'est une transformation d'origine idéologique. On passe de plus en plus d'une logique d'État-providence à une société qui est organisée sur des principes néolibéraux. Donc on va remettre en cause de façon implicite ou explicite, immédiatement je vais vous montrer un exemple, la pérennité du financement public. Il y a une idée croissante que la contractualisation de la recherche va permettre de la booster. On va booster la science en supprimant toutes ses rentes et en introduisant la concurrence entre les chercheurs, les labos, les universités, etc. Donc finalement, que les chercheurs, que les équipes de recherche se chargent elles-mêmes de financer leurs propres recherches, et dans ce monde idéal, dans ce monde néolibéral, que les meilleurs survivent. C'est ce qu'on nous dit. Pour l'économie, le marché, ça se stabilisera par lui-même. On a vu ce que ça donne en matière d'économie. Donc, d'où l'intérêt dans ce paysage-là d'être excellent, de suivre au plus près les critères en vigueur, si on veut parvenir à obtenir ces crédits qui font vivre la recherche, de faire de la recherche de grande vitesse, de faire de la quantité et d'être reconnu dans le monde entier, d'être de plus en plus standardisé. Et donc, nous sommes dans ces pratiques-là, au service d'un intérêt qui est profondément ou initialement idéologique, politique. Donc c'est une transformation politique de la recherche qui a été mise en œuvre, pensée hors du monde de la recherche et que chaque jour un peu plus nous contribuons à implémenter, comme ils disent. Je vous avais dit un exemple de ce caractère explicite de la suppression des rentes de la recherche et des financements publics. Voilà un document qui est disponible sur le site de la Commission européenne pour c'est le European Research Area. Et qu'est-ce qu'on apprend ? D'abord, une chose tout à fait cocasse, c'est que même dans les hautes sphères, on est incapable de dire ce que c'est que l'excellence. En fait, c'est vraiment, on joint ici l'insulte à la blessure, comme disent les anglo-saxons. Et d'autre part, vous le voyez ici tout en bas, on nous apprend que les sources de financement ne doivent pas dépendre à long terme des pouvoirs publics. Ça, c'est ce qui concerne les centres d'excellence. Gardez ça en tête, parce que c'est ça le futur, évidemment.
Alors, en conclusion, nous avons assisté ces deux dernières décennies à l'émergence de ce que Nicolas Dodier appelle un nouveau régime d'évaluation. Un régime dont nous contestons à la fois les principes, les outils et dont nous déplorons les effets qu'il produit sur la recherche, sur nous-mêmes et le sens de la communauté des chercheurs. Alors ceci ne signifie nullement que nous sommes réfractaires à toute forme d'évaluation, bien sûr. Simplement, à une politique d'évaluation s'appuyant sur l'application de critères artificiels, standardisés, transversaux et conçus selon la logique externe du management de la qualité, entre guillemets, nous sommes, nous, favorables à un régime d'évaluation collégial, commandé par des exigences internes de la recherche et animé par le souci heuristique de la faire progresser, tout en cherchant à donner vitalité par le dialogue à une pluralité de styles, à une pluralité de recherches, à une diversité épistémologique, une épistémodiversité ou une biodiversité, comme il a été question ce matin. Ce régime d'évaluation collégiale doit reposer, selon nous, sur la construction permanente, jamais totalement achevée, de référents communs propres à un champ de recherche, et non pas sur des critères externes que des experts éloignés viennent imposer sans discussion. À ce propos, il est piquant de constater que les partisans de l'évaluation de l'excellence définissent généralement leur dispositif d'expérimental, ouvert à la critique, mais en fait, cette ouverture ne s'applique en général qu'aux marges, aux critères, mais ne tolère aucune discussion sur le cadre de cette évaluation. C'est la logique notamment que certains d'entre nous ont vu opérer lors d'une dernière évaluation de la recherche. Le discours des autorités à l'entame de cette évaluation était « ne craignez rien, il s'agit que d'une expérience et on va voir en quoi elle peut être utile ». Verdict final, aucun effort de compréhension de la part des experts externes, aucune discussion sur le fond. Même pire, à une collègue qui s'est permise de demander au chef de l'escouade des experts sur quel référentiel, sur quelle base il comptait mener la discussion, la réponse a fusé « Madame, ici, c'est nous qui posons les questions ». Au final, donc, une interaction humiliante, un manque de respect pour le moins, et de la part des autorités universitaires, une potentielle manipulation, en tout cas un procédé vécu comme pervers par beaucoup de chercheurs évalués.
Alors, à l'inverse de cette expérience relatée par Mathieu, les évaluateurs qui seraient en régime collégial s'efforceraient de comprendre de l'intérieur la pertinence et l'originalité des recherches et des parcours scientifiques plutôt que de comptabiliser les publications qui en résultent. Il s'ouvrirait aussi à la pluralité des styles de recherche plutôt que de leur appliquer un principe d'équivalence qui en arrase complètement les spécificités. En fait, on voit aussi que ce qui joue dans les politiques d'évaluation, c'est un certain sens de la communauté scientifique. Quand il s'agit d'établir des critères communs en phase avec un certain esprit de la recherche et au-delà des épistémologies locales, c'est vraiment l'appartenance à une communauté scientifique qui s'éprouve. Ce n'est évidemment pas la finalité poursuivie par l'application des grilles. La construction collective de référents communs, l'attention portée au sens et aux apports des recherches sont une affaire exigeante. Ça demande des formats appropriés, ça demande du temps, beaucoup de temps, et à chaque fois, ça peut générer des tensions, forcément. Mais c'est ces fragilités, à nos yeux, qui méritent qu'on y consacre plus de temps et d'énergie, plutôt qu'à nous soumettre à un régime dominant qui impose à la recherche des critères établis dans des champs du management et de la publicité. Ce régime d'évaluation collégiale sera sans doute au programme des chantiers que nous comptons ouvrir dans notre atelier, comme pour répondre aussi à ceux qui nous rétorquent que nous sommes des nostalgiques d'un passé révolu. Ces chantiers représentent pour nous un temps fort de notre positionnement. Ils doivent être l'expérimentation d'une recherche collective guidée par la pertinence, le souci, la durée, le plaisir et le sens du travail bien fait. Ainsi, en fait, nous sommes ici pas seulement pour dresser un constat, nous sommes aussi venus faire un appel à la désobéissance. Face à des injonctions managériales qui nous poussent à être les acteurs de notre propre destruction, le maître mot est résistance. Il s'agit d'occuper et d'exploiter les interstices de l'université, les innombrables interstices de l'université, et de mettre à profit cette liberté académique qui nous est encore accordée pour préserver et cultiver la biodiversité. Pas seulement pour dire ou pour dénoncer, mais aussi pour agir concrètement, pour mettre nos valeurs en pratique dans nos activités d'enseignement, de recherche et pour partager avec d'autres, les collègues, les doctorants, les étudiants. C'est le sens de la charte de la désexcellence avec laquelle nous avons commencé. Une charte qui est issue d'un projet collectif, du terrain et non des sphères dirigeantes. C'est une suite de propositions à s'approprier, à adapter, à transformer en fonction des contextes et des profils. C'est le contraire, en fait, de la standardisation idiote et de l'absence de sens que l'on nous vend sous la bannière de l'excellence. Voilà.
Merci à tous nos collègues pour cette contribution très stimulante, à la fois originale et dynamique. Je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. Une contribution dont l'originalité ne devrait évidemment pas nous conduire à sous-estimer la gravité des propos qui ont été tenus sur l'évolution de la recherche aujourd'hui, l'importance des débats qu'ils ont lancés et des propositions qui sont susceptibles d'alimenter nos réflexions à l'avenir. J'imagine que les gestionnaires de la recherche que nous avons conviés tâchent ingrates à terminer la journée, reviendront peut-être sur certains des éléments qui viennent d'être évoqués, et peut-être aussi ceux qui vont l'être à l'instant.